Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. De l'IA, en veux-tu, en voilà. OpenAI et Google ont occupé le devant de la scène cette semaine en multipliant les annonces autour de l'intelligence artificielle. Le créateur de ChatGPT a présenté un nouveau modèle qui a des yeux et des oreilles, et chez Google, Gemini a carrément éclipsé Android. Est-ce que ces deux entreprises montrent la voie à Apple ? On va en discuter avec Christophe. Et dans le reste de l'actu, c'est la grande fête des émulateurs sur iOS et les appareils d'Apple vont faire un grand bond en avant en matière d'accessibilité. Nous sommes le samedi 18 mai, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas rater. Imaginez un peu, vous êtes en train de montrer vos photos de vacances à des amis quand tout à coup, vous voyez ressurgir une photo olé olé que vous aviez supprimée. C'est ce qui est arrivé cette semaine à des utilisateurs d'iPhone à cause d'un bug très étrange d'iOS 17.5. Salut Christophe, ça va ?
Salut Stéphane, ça va et toi ?
Ça va bien, ouais. Est-ce que tu as des photos supprimées qui sont réapparues comme par magie sur ton iPhone ?
Ah bah je vais te faire une confession, je ne prends pas de photos olé olé avec mon iPhone. J'ai l'impression de rater un truc.
Mais même si elles ne sont pas olé olé, tu n'as pas vu des photos réapparaître bizarrement ?
Non mais moi, c'est plutôt le problème inverse, j'ai toujours l'impression qu'il y a des photos que j'arrive pas à retrouver.
Ah ouais.
Mais ça, c'est peut-être plus lié, on va dire, au moteur de recherche de photos dans iOS qui est peut-être perfectible.
Ok. Bon, en tout cas, pour ce bug, on n'a pas encore les explications de la part d'Apple. On espère que ça va arriver parce que c'est très bizarre. Et d'ailleurs, ça ne concerne pas seulement la photothèque iCloud. Apparemment, même des utilisateurs qui n'ont pas iCloud activé ont ce bug. Donc, on attend de voir un peu des explications. Dans l'actu cette semaine, donc, OpenAI a tenu une conférence de presse la veille de la Google I/O. Alors, le créateur de ChatGPT a lancé une application officielle sur Mac. Elle est réservée aux abonnés ChatGPT Plus pour l'instant, mais j'ai pris un abonnement pour l'occasion et je l'ai essayé. Alors, cette application, elle est pas mal du tout. C'est un portage de l'application iPad, mais avec de nombreuses adaptations pour le Mac. Donc elle permet d'utiliser ChatGPT de manière beaucoup plus confortable que sur le web. Elle a aussi un raccourci qui est assez pratique pour prendre des captures d'écran et les faire analyser dans la foulée au robot. Il manque encore la partie la plus intéressante qui est l'analyse de l'écran en temps réel, mais ça va venir un jour. Et la deuxième annonce principale de cette conférence, c'est GPT-4o, un nouveau modèle qui est multimodal, c'est-à-dire qu'il gère nativement les images et l'audio en plus du texte. Donc ça permet des interactions vocales beaucoup plus fluides et une analyse des images qui est beaucoup plus rapide. Ces capacités de GPT-4o, c'est ce qu'on aimerait avoir dans Siri, non ?
Ouais. Et tout d'abord, une petite pensée pour Microsoft qui a injecté des milliards et des milliards de dollars dans ChatGPT, enfin dans OpenAI. Et voilà, et donc OpenAI qui fait un petit enfant dans le dos à ChatGPT, à Microsoft, en proposant sa première application sur Mac et non sous Windows.
Il y a une version Windows qui est prévue, mais effectivement, ça sera plus tard.
Voilà, mais ce qui montre, c'est intéressant dans cette problématique. Ce qu'ils ont dit, c'est que les plus gros utilisateurs d'intelligence artificielle, ce sont les utilisateurs sous Mac. Donc, ce qui ne fait que rajouter un petit peu de pression à Apple finalement.
Ouais.
Mais tout ceci est quand même assez fou. Hein. Montrer ce que ChatGPT fait là aujourd'hui en 2024, et je dis pas que ça paraît normal, mais tu montres ça à quelqu'un qui a vécu sur une île déserte depuis 5 ans. Je crois qu'il aura du mal à en croire ses yeux. Ça va à une vitesse juste hallucinante. Et là, voilà, les démonstrations. Par exemple, voir ChatGPT se transformer en prof de mathématiques. La vidéo est quand même assez bluffante. Et d'ailleurs, il y a même, par rapport à toute cette histoire d'intelligence artificielle, il y a un truc qui est assez étonnant. J'ai eu l'impression que les annonces d'OpenAI ont fait quasiment autant de bruit que celles de Google I/O. Ça, voilà, on voit quand même qu'on vit un moment assez intéressant. Bon, alors, pour revenir à ta question sur Siri, je vais être optimiste. Il y a eu quand même plusieurs sorties plusieurs articles de presse relativement bien informés. Bon, je crois que les dirigeants d'Apple sont pas plus bêtes que la moyenne. Ils ont posé le diagnostic lors de la sortie de ChatGPT.
Ouais.
Ils se sont rendus compte que quelque chose ne fonctionnait pas. Si l'on en croit les dernières rumeurs, a priori, Siri devrait, pour certaines fonctionnalités, s'épauler de ChatGPT. Et voilà, l'idée serait en tout cas de rendre très fiable l'assistant d'Apple sur un périmètre assez conscrit. Et ça, ce serait déjà assez pas mal. Ce serait déjà pas mal. On ne va pas lui demander de tout faire, mais qu'il arrive à faire déjà un certain nombre de choses, mais très très bien. Ce qui est le problème actuellement. D'ailleurs, je lisais les commentaires suite à une news sur le fait que Siri allait recourir à ChatGPT. Enfin, il y avait des commentaires très très marrants disant, bah moi, Siri, il est incapable d'ouvrir mon portail. Moi, à chaque fois que je lui demande d'écouter France Inter, il me lance une chanson dans lequel il y a le titre, je ne sais pas trop quoi, France Inter.
Ouais, ça m'arrive aussi parfois,
Et d'ailleurs, le commentateur disait, le mec qui a fait cette chanson doit gagner des fortunes grâce aux maladresses de Siri.
Alors, le lendemain de la conférence d'OpenAI, il y avait la Google I/O. Alors, la star cette année, ce n'était pas Android, mais l'intelligence artificielle. Donc, la grande majorité de la conférence a été consacrée à des annonces en IA. Google a dévoilé le projet Astra, un assistant pour la vie quotidienne qui pourrait être intégré des lunettes, ainsi que de nouveaux générateurs d'images et de vidéos. Et puis, il a été question d'intégrer Gemini un peu partout, comme dans Google Photos, pour retrouver des images avec une recherche très précise, ou même dans le moteur de recherche historique pour donner des réponses sans renvoyer l'internaute vers des sites web. Est-ce que tu crois que la WWDC va être dans la même veine, c'est-à-dire à fond sur l'IA?
Ah bah, le contraste serait assez étonnant, hein. Non seulement il va falloir qu'Apple parle d'intelligence artificielle, mais il va falloir qu'Apple adopte toutes ces technologies dans ses produits de manière assez intelligente. Et surtout, finalement, j'ai l'impression que cette WWDC est peut-être beaucoup plus importante qu'on veut bien le croire, parce qu'on a quand même l'impression. C'est une impression assez diffuse depuis quelques mois déjà, qu'Apple est un peu passé de l'autre côté de la colline. Elle donne l'impression, enfin c'est cruel de dire ça, d'être complètement à côté de la plaque avec le Vision Pro. Non pas que la technologie en elle-même est très intéressante, mais c'est quand même la première fois qu'on entend à propos d'un produit Apple, non mais attendez la V4, ça sera vraiment pas mal. Donc à la fin, ce que ça veut dire, c'est que Apple a tout faux au niveau du timing. Le Vision Pro sera sans doute un jour un produit très intéressant, mais a priori, c'est pas avant 2030. Là, la chose qui change la vie de millions de gens en 2024, c'est l'intelligence artificielle, c'est ChatGPT. Enfin, moi, je me suis retrouvé à faire des requêtes de choses qui m'emballaient pas spécialement à faire pour le boulot, et il y a des trucs qui m'auraient pris peut-être une demi-heure ou une heure. Voilà, je tape 3-4 trucs dans ChatGPT, en 10 minutes, c'est fait. Enfin, on peut avoir, grâce à ces outils-là, d'importants gains de productivité. Alors, par le passé, enfin, on l'a déjà vu, Apple s'est déjà plantée, elle n'a pas vu venir certaines choses, mais on en a surtout souvent cité l'exemple de la musique numérique au tournant des années 90-2000, mais il lui est aussi arrivé de se reprendre et ensuite de faire la course en tête. Donc, on le disait, ça a été le cas avec la musique numérique. On verra ce qu'il en sera avec l'IA générative à l'occasion de la WWDC et plus généralement avec toutes les technologies liées à l'IA. C'est certain que, enfin, si Apple ne fait pas un gros bond en avant le mois prochain, voilà, certains vont quand même commencer à regarder à Apple avec un peu de scepticisme.
Et alors, pendant que les grosses boîtes multiplient les data centers pour faire tourner des IA super sophistiquées, eh ben les utilisateurs d'iPhone s'amusent avec des vieux jeux, Game Boy ou PlayStation. Et ouais, parce que les émulateurs sont enfin en train de se multiplier sur iOS, pour le plus grand bonheur des amateurs de jeux rétro. Alors cette semaine, on a vu arriver par exemple Gamma, qui est un émulateur PlayStation 1, PPSSPP, qui est spécialisé sur la PSP, et puis même RetroArch, un émulateur très populaire qui gère de nombreuses consoles. C'est sympa de voir tous ces émulateurs, ça augmente considérablement le nombre de jeux jouables sur iPhone, iPad et même Apple TV. Du coup, on se demande un peu pourquoi Apple a mis autant de temps avant d'autoriser les émulateurs sur l'App Store.
Alors d'abord une première question. Si le sideloading, si les émulateurs sont disponibles sur l'App Store, le sideloading c'est déjà moins intéressant ou pas?
Ah bah ça, oui, ça devient un peu moins intéressant. Et si tu peux
Bon,
trouver dans la
tu vas me
boutique
dire qu'il y a cette
officielle.
appli qui est sortie en bêta cette semaine, je sais.
Mais oui, si tu peux trouver dans la boutique officielle des émulateurs, c'est plus simple que d'installer une boutique alternative comme App Store et puis Delta après, ouais, c'est sûr.
Bon, pour les émulateurs, pour répondre à ta question, Apple a toujours évoqué l'argument de la sécurité. Ça, on peut l'écouter, on peut l'entendre. Je pense qu'il y a un deuxième souci, c'est le piratage. Je suis certain que tu as sauvegardé tous tes ROM quand tu étais adolescent, voilà, en disant peut-être que dans 10 ou 15 ans, j'aimerais bien rejouer à ces jeux-là.
Ouais. Pierre a d'ailleurs fait un très bon papier là-dessus sur le Club IGN, si vous êtes abonné, sur comment émuler de manière légale tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on n'a pas le droit de faire. C'est un très bon résumé. Ouais.
Alors, je trouve ça très sympa, mais je suis pas sûr que c'est une hype qui va durer bien longtemps. Alors, ceci dit, je vais raconter un petit peu ma vie. Quand j'ai vu cette mode des consoles, je me suis dit, ah ouais, non, mais attends, mais jouer avec son iPhone, mais il va pas y avoir des boutons tactiles, ça va pas des boutons physiques, ça va pas être pratique. Non, bah, je vais essayer, je vais acheter une console. Et donc, j'ai acheté une console chinoise spécialisée dans l'émulation. Ça m'a coûté, je sais pas, 50 ou 60 €, quelque chose comme ça. Et alors voilà, on parlait de piratage. Ils m'ont fourni deux cartes SD avec un nombre, mais juste impressionnant de jeux. Je pense qu'il y a quasiment tous les jeux de la NES, de la Super NES, de la Game Boy. Enfin, j'ai. C'est comme si t'avais un peu tout le catalogue Netflix sur ton disque, enfin sur ton SSD. Là, tu peux y passer ta vie. C'est voilà, ça, je suis occupé pour les 30 prochaines années. Vraiment. D'ailleurs, tu parlais de data center, d'intelligence artificielle. Mais il y a un truc, je me suis rendu compte de quelque chose avec tous ces jeux. Je me suis aperçu de la taille d'un jeu NES. Et donc, un jeu NES, genre Zelda, Super Mario, c'est 60 kilo-octets
Eh oui,
environ.
c'est rien.
Voilà. Alors, tu parlais de l'IA et des data centers, tout ça, mais alors, les éditeurs de jeux qui ont besoin de 50 gigas pour faire le moindre jeu de base, je pense que. Il devrait y réfléchir. Je pense qu'il y a moyen d'optimiser également à ce niveau-là.
Ouais. Après, c'est pas les mêmes graphismes qu'à l'époque, hein.
Tout à fait, tout à fait. Mais je ne sais pas si c'est foncièrement beaucoup mieux à la fin. Mais bref, voilà, c'est le discours un peu du vieux con. Mais voilà, mais tout ça pour en revenir à cette histoire d'émulateur. Enfin, on l'avait déjà évoqué l'année dernière. Quitte à faire, moi, je préférerais. Qu'Apple autorise la virtualisation sur iPadOS et qu'on puisse faire fonctionner Windows ou macOS dessus. Je suis persuadé que ça ouvrirait de nouvelles perspectives bien alléchantes en termes de vente à Apple. Mais bon, on a entendu également le discours de certains dirigeants cette semaine parce qu'il fallait faire le service après-vente des nouveaux iPads et ils nous ont dit à quoi bon tous les utilisateurs Mac utilisent iPadOS.
Ouais. Après
Donc, c'est pas pour demain.
des retournements de veste, c'est possible aussi, hein. Peut-être.
Également, enfin, les dirigeants d'Apple ont également oublié qu'il y a également des utilisateurs d'iPadOS qui utilisent Windows OS, et c'est Windows OS qui utilisent Windows. Et c'est sans doute la majorité des utilisateurs en plus.
Eh bien, on va terminer maintenant le tour de l'actu avec une myriade d'annonces de la part d'Apple en matière d'accessibilité. C'était à l'occasion de la Journée mondiale de la sensibilisation à l'accessibilité. Alors, l'une des grandes nouveautés, c'est le suivi oculaire, qui permettra aux personnes ayant un handicap moteur de contrôler leur iPhone ou leur iPad avec le regard. En fait, c'était déjà possible avec des appareils spéciaux, mais là, toute la différence, c'est que ça fonctionnera sans accessoires supplémentaires. Rien qu'avec la caméra avant de son iPhone, on pourra contrôler le système et les apps avec ses yeux. Une autre nouveauté intéressante, c'est une fonction pour réduire le mal des transports quand on utilise son iPhone en voiture. En fait, des petites animations qui représentent les mouvements du véhicule s'afficheront sur l'écran pour que le cerveau soit moins désorienté et ainsi réduise les nausées. Je serais curieux de tester ça. Et il y a eu beaucoup d'autres annonces, je ne vais pas toutes les citer, on a fait un article là-dessus. Les nouveautés seront disponibles plus tard cette année, sûrement dans iOS 18. Est-ce que tu utilises au quotidien des fonctions d'accessibilité, Christophe?
Je vais te décevoir, mais rien de rien.
Ah ouais?
Il m'est arrivé sur certains appareils une époque de désactiver les animations parce que ça ramait. J'ai aussi essayé pendant quelques temps de mettre mon iPhone en noir et blanc pour rendre l'affichage moins agressif le soir. Mais c'était pas mal, mais à la fin, j'avais la flemme. Ceci dit, c'est devenu un petit peu un rendez-vous récurrent, ces annonces d'accessibilité au mois de mai, peu de temps avant la WWDC. Alors, tu as raison, je pense qu'on verra tout ça dans iOS 18. Il faut vraiment louer les efforts que fait Apple dans ce domaine. Avant l'iPhone, par exemple, il y avait des téléphones pour les malvoyants. C'était souvent des objets hors de prix et très, très, très limités. Et là, on le voit, par exemple, encore avec le suivi de l'œil. Alors, j'imagine que enfin, que cette nouveauté, c'est issu des travaux d'Apple sur le Vision Pro. Et ben voilà, donc il n'y aura pas besoin d'acheter un accessoire en plus pour pouvoir utiliser, lorsqu'on a des problèmes de vision, un iPhone ou un iPad dans de bonnes conditions. Et donc voilà, alors il y a des fois, on critique Apple sur certaines choses, mais alors vraiment sur ces aspects-là, chapeau Apple.
Pour ma part, j'utilise un peu une fonction qui permet de réduire la luminosité maximale la nuit. En fait, on peut encore baisser plus la luminosité de l'écran avec cette fonction. Et puis, j'ai testé aussi les tapotements à l'arrière. C'était apparu dans,
Ah
je ne sais
oui.
plus, il y a deux versions, je crois, d'iOS. Mais ça n'avait pas totalement convaincu. Et puis, sinon, je n'utilise pas personnellement, mais je vois beaucoup de gens utiliser l'astuce un peu du flash. Pour les notifications ou les appels, dans les réglages d'accessibilité, vous pouvez faire en sorte que le flash de l'appareil photo arrière s'active quand vous recevez des notifications ou d'autres choses. Ça peut être sympa quand le téléphone est par exemple posé sur une table.
Alors, c'est ça qui est bien avec accessibilité, c'est que ça permet à l'utilisateur de faire une foule de choses.
Ouais.
Moi, le truc que j'ai toujours trouvé, alors, je suis pas forcément visé par cela, mais j'ai toujours trouvé ça un peu fouillis. C'est-à-dire qu'on, c'est vraiment dans les préférences, dans les réglages, c'est un univers à part et on peut y passer beaucoup, beaucoup de temps et on peut se perdre et des fois même activer certaines fonctions qu'on comprend pas très bien. Enfin, c'est. Moi, j'ai déjà eu mes enfants qui sont revenus. Regarde mon iPhone, il est tout bizarre. Qu'est-ce que machin? Et donc, il avait trifouillé dans accessibilité, en fait.
Ouais, effectivement. Ouais. Eh bien, écoute, merci Christophe pour ce retour sur l'actu. Bon week-end.
Bon week-end à tous.
Et à la semaine prochaine pour un prochain rendez-vous de sortie de veille. Salut à tous.